Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Merci à toi, au digne représentant de la rédaction, pour ces informations. Nous allons les détricoter immédiatement.
Salut les producteurs.
Salut Thomas.
Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de France Inter pendant les fêtes?
Thomas, oui. Tu sais qu'on a une très grande confiance en toi.
Et on n'est pas loin de penser que t'es le meilleur chroniqueur de l'émission.
Oh non, vous dites ça pour faire avancer l'intrigue, je vous connais, c'est du très bon storytelling.
Ah, non, c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Ah bon?
Oui, bah oui.
Ah bon, mais je serai le personnage principal alors.
Ça, on verra chose à la fois.
En tout cas, on te met à l'honneur aujourd'hui parce qu'on va réécouter ta chronique sur la deuxième chance.
Oh, ça me rappelle mon premier mariage. Non, en tout cas, moi je trouve que la mécanique scénaristique de la mission, elle est vraiment de mieux en mieux agencée.
Ah bon? Bah vas-y, dis-nous.
Ouais. Bah oui. Alors voilà, c'est à moi. Mm-hmm. Je viens vous parler de storytelling, de toutes ces petites bouts de récits qui...
Vas-y.
Oui, bah non, le triangle amoureux.
Ah, voilà.
Bah oui, c'est la grande spécialité des films français.
Comment ça, je comprends pas là.
Mais si, Charline, t'es convoitée, t'es amoureuse de deux hommes à la fois.
Qui sont?
Ben, tu sais pas qui choisir.
Non, mais c'est même pas vrai.
Mais si, d'ailleurs, tu ne choisis pas. Mmh. C'est comme dans les films français. Tu te demandes, t'es au café, tu fumes des cigarettes, tu te demandes avec qui coucher. Et pendant qu'Alex lutte, Guillaume essaie toujours de te conquérir comme le Normand devenu roi d'Angleterre.
Ben, c'est toujours moi qui gagne, comme l'Allemagne. Ben...
Parce que la fidélité, c'est toujours récompensé. Ah. D'ailleurs, qui est-ce qui présente les florilèges?
Ah ben, c'est Alex et moi.
Et voilà.
Ben, qu'est-ce que je disais? Peut-être que je devrais réécrire pour le cinéma.
Oh, ouais, Alex, tu sais, moi, j'ai toujours su que c'était toi.
Moi aussi, Charlie, j'ai toujours su que c'était toi.
Oh, ben voilà, moi, je suis qu'un personnage secondaire dans cette histoire. C'est toujours pareil, alors les mecs, mais franchement...
Bonjour, la France Inter. Vous écoutez la start-up de la radio publique qui fouette l'actualité à coups de blagues subventionnées. Et voici les deux complices de cette opération destinée à décrédibiliser la réalité. D'abord, l'écrivain Gauze, l'auteur de Debout payé, qui a plus récemment publié Camarade Papa. Nous l'avons reçu au moment où Emmanuel Macron avait tellement inversé sa courbe de popularité qu'elle est passée sous celle de François Hollande, ce qui vous donne une idée des profondeurs. Nous avons ensuite évoqué toutes les bassesses de Heineken en Afrique, sur base d'un livre d'enquête sur les pratiques de cette multinationale. Place ensuite à Yves Lecoq, qui aurait dû fêter ses 30 ans de guignol à la rentrée, si Bolloré n'avait pas tout cassé. Sa première rentrée sans guignol, eh bien, il l'a passée chez nous au lieu d'être près de son PPD. Un sujet taillé pour lui, c'était le retour de l'ancien monde pour revenir au secours du nouveau, ébranlé par l'affaire Benalla. Le président a eu recours au conseil des vieux briscards de la politique qu'il avait pourtant dégagé. Et puis l'annonce par Chanel du lancement d'une gamme de maquillage pour hommes, ce sera l'occasion d'entendre Karl Lagerfeld répondre aux questions que nous nous posons. Alex, quelles seront les voix des chroniqueurs aujourd'hui alors?
Eh bien, Juliette Arnaud nous parlera du livre de l'invité Gauze. Puis Guillaume Meurice posera cette question. Êtes-vous trottinophile ou trottinophobe? Je ne vous donne pas la réponse pour moi, bien entendu. Thomas Bidguin viendra traiter la deuxième chance. Et on terminera par Frédéric Fromet. La chanson de Magic System a été réadaptée en Magic Jupiter.
Place à la littérature, on accueille Gauze.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Vous publiez Camarade Papa, édition Le Nouvel Attila. Vous êtes donc l'auteur de Debout payé. Et voici votre donc deuxième roman, si je ne m'abuse.
Affirmatif, madame.
Voilà. Nous sommes à Grand Bassam, qui est la première capitale coloniale de Côte d'Ivoire. Le roman commence au 19e siècle, où un jeune Français venu de la Creuse tente l'aventure coloniale.
Un migrant.
Oui, exactement. Le migrant s'appelle Dabili. Et en parallèle, vous déroulez le récit d'un jeune d'origine africaine, mais un siècle plus tard, et qui grandit à Amsterdam dans une famille communiste, d'où le titre aussi « Camarade Papa ». Vous développez donc sur la colonisation deux points de vue. Il y a un homme blanc du 19e en Afrique et un enfant noir du 20e en Europe qui va en Afrique. Vous êtes franco-ivoirien. Il y a donc en vous une part d'homme blanc.
Que j'assume totalement, je suis le fruit de cette histoire-là, donc je l'assume de façon décomplexée. La négritude, j'en ai rien à péter, en fait.
Voilà. Prends ça dans la gueule, Aimé Césaire, ce qui nous écoute. Bam!
Léopold Sédar Senghor et toute sa clique chèque en Tadjok, je m'en fous de venir de pyramide et tout ça. Moi, je suis à la fois français et donc issu de cette culture et de cette histoire-là. Donc je peux me mettre dans la peau d'un jeune Français qui bouge au 19e, qui quitte chez lui, qui cherche à accomplir un destin personnel, de la même façon que moi-même, de façon personnelle. Il y a 15 ans, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en me disant, bon écoutez, je vais aller voir ailleurs si cet ailleurs-là est meilleur.
Donc Charles Martel, vous comprenez pourquoi il a...
Ah non, je sais pas, il a beau marteler, je comprends rien, quoi.
Mais y compris cette part d'homme blanc, celle du 19e siècle, parce qu'il y a vraiment le style d'écriture et de langage, la manière dont il parle. Ça, stylistiquement, vous l'avez nourri comment? Parce que ça,
les rapports administratifs disent ce que l'époque veut l'entendre. Et ça, c'est pas là-bas qu'on trouve la langue. La langue, en fait, on la trouve dans les lettres personnelles. On oublie de dire que la colonisation, c'est pas juste un grand système qui est tombé comme ça de la gueule ou de la tête de Jules Ferry pour dire « Allez au loin là-bas, apporter la civilisation aux petits négros qui dansent tout nu. » Non, 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 non. Une fois que tu dis ça, qui va là-bas? C'est pas les petits copains du 16e arrondissement, mais c'est des gars de la Creuse, des gens qui cherchent leur destin ailleurs, quoi. Et ceux-là, ils ont des copains ici, ils tombent amoureux là-bas. Mm-hmm. Donc à hauteur d'homme, c'est différent. Donc quand ils s'écrivent ceux-là, ils parlent différemment que dans les rapports administratifs. Donc je me suis énormément nourri de cette façon-là. Et puis en plus, le français de l'Afrique de l'Ouest est hérité pas mal en fait de cette manière de parler là. Ouais. Donc il y a des mots. Moi, je m'appelle encore Armand. Ça rigole pas. Oui. C'est des prénoms des années 20, 30, voire du début du 20e siècle. Donc on a un peu aussi cette façon balzacienne. On a gardé ça.
D'utiliser un langage très châtié, surtout voilà. Les vieux qui utilisent encore un vocabulaire.
Dans la rue, mais même pas les vieux. Oui. Les jeunes dans la rue au Cameroun ou à Abidjan. Mm-hmm. Des fois, ils sortent des phrases incroyables, quoi, les gens dans la rue, quoi.
Vous développez donc un double point de vue sur la colonisation, avec double mouvement, venir d'Europe en Afrique, d'Afrique en Europe, l'homme blanc, l'homme noir. Pourquoi avoir développé deux points de vue? Ça permet d'avoir une vision très complète.
Non, ça m'a permis de décolorer déjà le truc. Ouais. C'est mon grand combat, c'est la décoloration de tous les points de vue. Ouais. C'est une façon de voir bourgeoise que de fabriquer du noir, ouais. du négro. La machine à négro de la négritude, elle obéit au même système que la machine à négro de la colonisation. Donc en fabriquant la couleur, tu donnes des prétextes à un petit groupe pour dominer un plus grand. Ouais. Donc c'est totalement capitaliste et bourgeois. Dès que tu sors de la couleur, justement, c'est pour ça que je peux être blanc, et ce jeune homme africain ou noir, peu importe, qui naît en Hollande et qui repart en Afrique, de la même manière que le vieux blanc du 20e siècle. Ouais. Donc dès que tu pètes la couleur, apparaît, surnage la classe sociale. Et là, c'est plus le même discours. C'est de dire qu'on, mais en fait, on s'en fout, on se fait arnaquer par des gens, par un groupe précis de personnes. Mm-hmm. C'est plus du tout le même discours. Et là, c'est fini le gros sentimentalisme. Ah, mais non, tu me traites pas de sale nègre. Mais j'en ai rien à foutre. Tu es responsable de ce que tu dis quand tu me dis sale nègre. Mais par contre, tu m'empêches pas d'étudier, tu m'empêches pas de travailler. Voilà. Ça, dès qu'on sort de la couleur, le vrai discours sort. Le discours de la classe sociale. Et ça rigole plus à partir de ce moment-là. What's happening? Pretend enemies were created. Therefore, flower garden, but today we change. Funny God. Jesus have succeeded in them, prevent the other from being there. No less be what we are, what we are, whatever our appearances may be. Jesus have succeeded in them. From being there, no less be what we are, what we are, whatever our appearances may be. Let's see, peace and love, cause our garden is flowering.
Ça vous fait tout bizarre d'entendre ceci ici, c'est Jess Shabby, Peter Wan.
Jess Shabby et Peter Wan. En fait, d'entendre Jess Shabby et Peter Wan à France Inter, c'est comme si toi tu entendais Bachung, Bachung chez les Pygmées, quoi.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Gauze est avec nous. Il publie Camarade Papa aux éditions Le Nouvel Attila. On entendra tout à l'heure Juliette Arnaud. Et on va vous soumettre ce premier sujet dont on va débattre un peu. Après une année à marcher sur l'eau, Jupiter plonge. Alex l'a dit dans les sondages, il vient d'atteindre un niveau de popularité plus bas que celui de François Hollande à la même période du mandat. Il y a 31% des Français qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron comme président. C'est 10 points de moins qu'en juillet. C'est la plongée, oui.
Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait ?
C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
Pourquoi ?
Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une.
Le grand bleu de Luc Besson. Alors donc, il y a 22% de Français qui jugent le président proche des préoccupations des Français. Donc, il descend même à un point en dessous de François Hollande à la même époque. Gauze, vous, d'après vous, avec votre regard, qu'est-ce qui le rend impopulaire, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui a merdé depuis un an ? Qu'est-ce qui fait mal ?
Est-ce que ça vous dérange pas si je parle pas de lui et que j'en ai rien à foutre ?
Oh non, pas du tout.
Par contre, je veux savoir où est la cote de popularité des Républicains. Tu sais, la bande à Chirac, l'ex-bande à Chirac. Tant qu'ils ont la tête sous l'eau, moi ça me va, quoi. Parce que lui, évidemment, c'est un feu de paille, ça va finir en Giscard, en UFD ou des UDF là.
Oui,
ça va finir comme ça. Donc lui, c'est momentané.
Ah oui, vous le voyez faire mandat,
bien
bah,
sûr,
comme Hollande.
Bien sûr,
en fait.
Les autres, là, la bande à Chirac, les filles et ses enfants. Là.
Les Éric Ciotti, voilà, les Wauquiez.
Les Wauquiez, les enfants de Chirac, ouais. Nicolas, là, celui-là. Ouais. Tant qu'ils ont la tête sous l'eau, moi, ça me va.
Mais la cote de popularité de Chirac, elle est énorme aujourd'hui, ça doit vous angoisser, ça, quand même.
Absolument pas.
Non, mais il va plus faire grand-chose, mais c'est le préféré des Français.
Non, mais déjà, tant qu'on le pousse pas aller aux toilettes, c'est bien.
Oui, donc c'est vraiment...
Je dis ça au nom de tous les gens qui l'ont emmerdé en Côte d'Ivoire. Donc c'est de bonne guerre,
oui,
quoi.
C'est de
au
là
sens
c'est,
propre, comme
c'est de là que ça vient.
Figuré, quoi.
Ceux auxquels vous en voulez, c'est cette frange-là de l'échiquier politique.
Tout à fait.
La droite, voilà. Les Républicains aujourd'hui. Quoi, pour leur relation aussi à
l'Afrique. Non, mais pour les bombes à Abidjan, c'est tout. Ouais. J'ai le droit de leur en vouloir pour ça. Ouais. Ad vitam aeternam.
Juliette Arnaud, revenons donc au roman de Gauze, Camarade Papa, roman historique sur la colonisation. Édition Le Nouvel Attila.
Oui, alors ce titre, Camarade Papa, dans quelles circonstances un enfant peut-il parler de son papa et à son papa en disant Camarade Papa ? Ben, lorsque le papa est communiste. Et avant d'être papa, il est camarade. Quant à Camarade Maman, bon, ben, elle a disparu. Et sinon, la peau brune du fils de Camarade Papa et ses cheveux roux, d'où viennent-ils ? Eh ben, il faut accepter de pas savoir. Il faut accepter d'avancer dans le roman à l'aveugle. Il faut accepter de se laisser faire avec un bandeau sur les yeux qui, peu à peu, mais à son rythme, se dénoue. Il faut laisser l'enfant et notre temps pour aller en 1880, en gros, qui est un temps de colonisation, prendre une grosse calotte en accostant par la barre de Grand Bassam, je sais, j'ai failli mourir moi-même, pour accéder au premier comptoir colonial français de ce qui deviendra la Côte d'Ivoire. Et la barre de Grand Bassam, c'est une galère sans nom. Seuls les pirogues passent, certainement pas les baleiniers, et même en pirogue, c'est sportif. Et ça, quand même, ça devrait mettre la puce à l'oreille des Blancs qui débarquent, leur susurrer que peut-être, ceci n'est qu'un début, et qu'ils vont en baver copieux. Mais l'homme blanc est entêté, l'homme blanc français en ces temps-là l'est encore plus, d'autant qu'il vient de se passer des trucs pourris dans son royaume du Danemark. C'est l'époque de la post-raclée de Sedan, Napoléon III a ramassé sa baffe face aux Prussiens, il a dit « Bienvenue messieurs de la commandanture, avant l'heure !» La commune de Paris n'est plus, on construit sur ses décombres glorieux pour un nouvel ordre moral, cette bouse de Sacré-Cœur. Enfin, le gardien de l'honneur de la France et de ses misérables, j'ai nommé Victor Hugo, ne va pas tarder à rejoindre ce moineau de Gavroche. Un de ceux-là, un de ces moineaux, eh ben, il se tire de la France, il s'appelle Maxime Dabili, il n'a pas un rond, il est orphelin, et il n'a pas peur de l'Afrique. Il pense « L'Afrique est inimaginable ». Elle ne me fait pas peur. Camarade Papa, un siècle plus tard, dit, lui à son fils, en Afrique, aucun diable, juste la chaleur. Et c'est déjà pas mal la chaleur pour un petit blanc. D'autant que Dabili est vraiment très très blanc. Il est tellement blanc qu'il est roux. Et les blancs, à cette époque, ils crèvent en Afrique. Moi, c'est ce que j'ai appris en lisant ce livre. Et en général, ils meurent pas dans des grands combats contre des animaux énormes ou flippants ou avec des dents de scie ou contre des indigènes cannibales. Ils crèvent de manière moins honorable. Ils crèvent de dysenterie ou de moustiques.
De heureusement, chiasse, quoi.
Ouais, c'est ça.
On a bien compris.
De tout ce qui est colique, en fait.
Voilà, tout ce qui a rapport avec le fait que tu te vides par le cul. Ouais, heureusement, ouais. Dabili n'est pas comme les autres. Ni l'argent, ni la quête du pouvoir ne semblent le guider. C'est un rêve, peut-être, qu'il guide. Alors, Dabili voit, il écoute, il apprend tellement bien, qui fait comme tous les gens qui apprennent très bien, il tombe amoureux. Il est fasciné par un peuple du coin, les Anis. Ils sont inspirants, les Anis, de plein de manières. Et puis chaque lecteur, chaque lectrice chopera dans le bouquin de Camarade Papa, ici ou là, un endroit où sa culture à lui, le titille, le dérange, le brusque. Moi, par exemple, et ça n'étonnera personne, ce qui me brusque dans ma culture, c'est la place des femmes. Alors la description des Anis accompagnant les hommes blancs dans leur avancée dans les terres de la future Côte d'Ivoire, je l'ai trouvée intrigante. Parce que les gens réquisitionnés sont des hommes, mais leurs femmes les accompagnent. Et lorsque Maxime Dabili s'étonne de ça, on lui répond que, et je cite, « Pénélope n'existe pas ici. La femme suit Ulysse. Elle ne l'attend pas. » Gros big up à Pénélope, soit dit en passant. Clin d'œil, clin d'œil. On chope d'autant mieux ces endroits que la langue de Gauze est piégeuse. Elle captive. Écoutez un peu. Les eaux faufilent leur noir profond dans un corridor de bosquets assoiffés au point d'immerger leurs feuilles. Des bandes de crocodiles, gueules ouvertes, immobiles sur la grève, avalent les rayons de soleil. L'horizon est morbide, on croit naviguer sur le Styx. Moi, perso, j'étais captive. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Super.
Parlons de ce sujet qu'on a, en le voyant, on a tout de suite pensé à vous et à votre livre. La bière Heineken, qui arrose de plus en plus l'Afrique, en même temps que progresse la classe moyenne en Afrique qui consomme la bière industrielle. Alors, corruption, soutien aux dictatures, jusque-là, rien d'étonnant, on est d'accord.
C'est normal.
Normal.
Tout va bien.
Mais là où une enquête montre que au Rwanda, Heineken a été le carburant des génocidaires et la boisson de la récompense aussi. Le géant hollandais.
Avec ou sans Heineken, de toute façon, ils se seraient mis dessus déjà.
Ils se seraient mis dessus aussi, mais enfin, c'est-à-dire que Heineken
Rwanda,
a aussi.
Ils auraient quand même pu boire de la bière belge avec tout ce qu'on a fait quand même.
Alors, le géant hollandais a aussi engagé 2500 prostituées chargées de faire la promo d'un breuvage qui rend plus puissant sexuellement, court pratique à la pluie, donc la colonisation par le ventre et le bas-ventre. Autre exemple.
Ah, monsieur le ministre, j'ai un présent que je tiens à vous offrir en mon nom personnel. Des asperges de Saint-Aloy. Voilà, ce sont les meilleures et les plus délicieuses asperges du monde. Sel, minéraux, vitamines, bien-être, c'est vraiment le meilleur allié santé pour des gens qui, comme vous et comme moi, sont toujours dans l'action permanente au service des gens, n'est-ce pas? Alors voilà, j'en ai évidemment apporté aussi pour son excellence le président du Gondwana. D'ailleurs, à ce propos, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que le président pourra me recevoir pour que je lui expose quelques projets que j'ai pour le Gondwana autour des asperges?
Il est très ouvert à tout ce qui fera avancer le pays.
Antoine Duléry, notamment dans Bienvenue au Gondwana, le film de Maman. Alors aussi au Congo, Heineken force des filles à coucher avec des responsables de la brasserie et des gérants de bar. Toutes ces révélations se trouvent dans un livre, enquête d'un journaliste hollandais. Ça s'appelle Heineken et l'Afrique. Je l'ai mis entre vos mains, Gauze, ce livre. Je vous l'offre d'ailleurs parce que je pense que vous aurez peut-être envie de le lire. Est-ce que vous le saviez ou vous aviez pressenti que Heineken avait ce genre de pratique
mais pas que eux. Ouais, c'est bien que un livre exemple soit sorti, mais c'est tous. Hein, y a les grands Français, Diageo, les Anglais, et voilà, ils y sont tous. Hein, et ils pratiquent à peu près de la même façon. Et l'Afrique a une très longue histoire politique avec la bière, Lumumba.
Vous l'appelez le vendeur de bière.
Bah oui, c'était un véritable représentant commercial de la bière. Mais je veux pas trop dire de mal de la bière parce que les copains Abidjan, ils vont pas.
C'est inexplicable, les Belges, on ne s'explique pas pourquoi cette mauvaise bière hollandaise est dans le monde entier, alors qu'il y a plein de bonnes bières et faites sur place et d'exportation.
Bien sûr.
La Champions League, ça te dit quelque chose, toi?
On est d'accord. Mais
justement, on a pensé aussi à Heineken, qui est un géant hollandais. Et dans votre livre, il y a un des deux personnages qui grandit à Amsterdam, qui va en Afrique. Et vous dites, les Philips, la bourgeoisie hollandaise collabo dans les expériences avec les fascistes pendant la petite guerre, plus longue et meurtrière que la grande guerre. Ils ont fortuné destinée à vendre de la lumière et du son, une honte, s'enrichir sur le dos des vibrations fondamentales de la nature. À la victoire finale des luttes prolétariennes, il y aura des exécutions sur la place publique. Les Philips seront pendulés en même temps que leurs ampoules au-dessus de la piste de danse de la nouvelle dictature du peuple. C'est Camarade Papa qui parle.
Ouais, c'est Anouement, l'enfant quoi de Camarade Papa, et qui n'a que ce genre de discours. Il ne comprend le français qu'à travers les discours marxistes de son père, parce qu'il est vrai, il est vraiment né en Hollande et dans le quartier rouge, le plus beau quartier de la ville, où il y a les vendeuses de bisous.
D'ailleurs, en partie élevé par une vendeuse de bisous.
Yolanda, la grande Yolanda, la marron.
C'est ça. Et donc aujourd'hui, avec ce cas de Heineken, en fait, c'est un peu le cas de Philips, mais transposé aujourd'hui.
Exactement. On est au cœur du discours de ce gamin là, qui est né en Hollande parce que ses parents communistes cherchaient le patient zéro. Ils considèrent le capitalisme comme une espèce d'épidémie qui a contaminé toute la planète.
Et dont le berceau est
pour eux, la Hollande, tout le monde s'est planté, c'est pas l'Angleterre, c'est la Hollande. Donc ils vont là-bas pour étudier le patient zéro et trouver le vaccin pour soigner le monde du capitalisme. Et, les deux pays qui ne sont pas contaminés, c'est la Grande-Russie à cause de l'Oural, et puis la Chine à cause de Mao et la Grande Marche qui s'est fuir le pesticide et autres quand ça chauffe.
Mais voilà. Sans vouloir, est-ce que c'est la faute de Heineken ou est-ce que c'est la faute de l'Afrique? Est-ce que c'est possible d'aller faire du commerce en Afrique sans utiliser ces méthodes-là?
Mais tout le monde fait ça déjà. Ouais. Bolloré, vous croyez qu'ils font comment? Et c'est un exemple comme un autre. On peut pas demander au lion de se justifier d'être un lion quoi. Il vient et voilà, il va taper dans la bête, mordre où il faut, à la jugulaire de préférence pour que la bête meure le plus rapidement possible et qu'il se repaisse de son repas. C'est comme ça. Ils sont tous exactement. Il y a pas de modèle alternative de l'industrialisation en Afrique. Il n'y en a pas. Je mets au défi quelqu'un de trouver... Il faut tous les prendre. Ils sont tous pareils.
Alex disait que Bolloré était quand même assez chouette par rapport au fait que c'est son employeur à la télé.
Ça se passe bien. On boit une Heineken, franchement.
Oui, c'est des champions. Donc, au moins, eux, ils font ça en enivrant les gens.
Goz, avec nous, on a un petit rôle à vous proposer de composition.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte et son rôle. Et je me suis dit, ce qui vous irait bien, c'est peut-être le rôle de Jean-Marie Le Pen. Je me suis dit, je me suis dit, voilà, il y a un truc d'acteur à jouer. Parce que le Rassemblement National essaie évidemment de récolter des fonds, ils sont un peu dans la mouise au niveau financier. Marine Le Pen et Valérie Saint-Just, en la personne de Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker, sont en train d'ouvrir les petites enveloppes. Et qui c'est qui vient rendre visite à sa fille? C'est Jean-Marie. On se rend au siège du Front National.
Bon alors, où sont mes assistants?
Comme tes succès à toutes les élections, j'ai bien peur qu'ils soient fictifs.
Non mais qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Le Pen?
Appelle-moi papa.
Qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Papon? Papa, pardon.
J'avais envie de rire, je suis venu assister au résultat du RN temps.
Oui, alors où en sommes-nous, monsieur de Saint-Just?
Nous avons reçu plus de 500 000 euros.
Et merde, on est foutus.
Tant mieux.
Non, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
Alors on a un chèque de monsieur Filippo F.
Le sale petit traître.
Mais quel montant alors?
Un franc symbolique.
Un franc?
Un franc.
Il n'avait pas vous payé un euro, la petite tare?
Non, papa, plus d'homophobie au RN.
Oh,
hein,
rassurez-moi, le racisme, on peut?
Bah, j'aurais tendance quand même à dire oui. Là.
Une chose à la fois, quoi d'autre?
Alors, on a un don d'un certain Ménard R.
Ça me rappelle que j'ai comme une envie de baiser.
Papa!
Tu préfères que je m'exprime sur le troisième rail?
Non, ça va aller.
Non, moi j'en peux plus, là, je me sens pas bien.
Comme dans un débat de l'entre-deux-tours.
Non, alors, me dites pas que pour renflouer les caisses du parti, on va devoir faire le jeu des 1000 euros.
Attendez, j'ai une enveloppe signée de madame Maréchal M.
Elle ferait mieux de travailler à l'école, celle-là.
Ouais, combien l'enveloppe?
Non, y a rien, y a juste un petit mot, bon courage, tata, lol, MDR.
Ah. Excellent, cette petite, c'est son grand-père. Tout craché.
Non, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On appelle à l'aide Stéphane Bern?
Tu te prends pour un monument en péril? Non,
écoutez, monsieur Le Pen, c'est la démocratie qu'on assassine, là. Hein.
Si t'en es réduite à paraphraser François Fillon...
Bon, si ça continue comme ça, j'annonce ma démission dans le 7-9 de France Inter.
Enfin, un vrai moment de grâce.
Pas mieux.
Dites-moi, Alex, oui. Quand Guillaume il est en vacances, est-ce qu'il embête quand même les gens sur les marchés, ou dans les salons de la fintech, ou peut-être qu'à l'heure où on parle, il est en train d'embêter un boucher ou...
Il est, à mon avis, en train d'embêter un type bien sur une trottinette.
parce qu'il n'aime pas les trottinettes et évidemment, il a été mené l'enquête.
Il y a des jours où il faut s'attaquer au vrai sujet de société, hein, c'est aujourd'hui. Donc on va parler trottinettes qui menacent nos traditions, le c'est notre art de vivre. Elles envahissent nos vies, telles des humoristes belges dans les médias français. On n'est plus chez nous, sur les trottoirs, on peut le dire, la France a peur, les trottinettes sont en train de grand remplacer le piéton. Alors les trottinettes, qui sont-elles? Quels sont leurs réseaux qui se cachent derrière ce business lucratif? Je me suis rendu au Mondial de l'Auto, qui est également celui du deux-roues, ça tombe bien, et donc de la trottinette. Et j'ai fait de belles rencontres.
Je suis motarde.
Vous venez d'où?
D'Orléans.
Vous venez pas de Dijon?
Non.
Vous n'êtes pas la motarde de Dijon?
Non, ça va aller.
Ça va. C'est lundi, les gars. C'est bon, ouais, on fait ce qu'on peut. Je me chauffe, je suis encore au diesel, je suis pas à trottinette. Contrairement donc à certains qui se déplacent dans les allées du salon en trottinette. Et c'est comment la trottinette?
Magnifique, extraordinaire. Alors là, vraiment, on gagne du temps, ça à la pêche. On est en 2 secondes 30 où on veut, c'est fabuleux.
Est-ce que c'est pas la star du salon là cette année, la trottinette? Je vois des stands que je voyais pas les autres années.
Bah oui, la mobilité aujourd'hui qui est là, elle arrive, elle est... omniprésente, et tant mieux, pourquoi pas.
La mobilité est omniprésente.
La mobilité est carrément omniprésente depuis des années au Salon de l'Auto.
Oui, c'est vrai que la mobilité au Salon de l'Auto, ça fait quelques années qu'ils sont sur le coup. Hein. D'ailleurs, ils avaient fait plusieurs éditions avec des autos pas mobiles, ça n'avait pas pris. Non, les gens n'avaient pas accroché, il y avait moins d'accidents, mais ils n'arrivaient pas à destination. Donc la mobilité est donc nouveauté, stand de trottinettes un petit peu partout, avec des nouveaux modèles et des accessoires.
Ce sont des accessoires et ce sont des options. On peut changer les couleurs de garde-boue, on peut rajouter quelques petites choses en plus. Donc on change certaines choses.
On peut faire du tuning de trottinette.
On peut tout à fait faire du tuning de trottinette.
Et ben ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, qu'il y a un marché qui s'ouvre immédiatement dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein, il y a des business d'ailerons arrière de trottinette qui se montent à Tourcoing. Investissez, Jean-Yves Courciel est déjà sur le coup. L'action Jean Talu de trottinette a déjà pris 12 points à la bourse de Béthune. On n'arrête pas le progrès, même si des fois, c'est quand même un peu dommage. Alors, il y a des réfractaires au progrès, évidemment. Il y a notamment un groupe de motards que j'ai croisé ce matin. Et j'ai repéré, parce qu'ils avaient tous le même t-shirt, on pouvait donc parler d'une bande organisée.
Bah, on a monté ce groupe-là entre nous, comme ça, sans passer par la préfecture ou je ne sais quoi. On s'en fout, quoi, en fin de compte.
Un groupe qui s'appelle comment?
La Team Bâtard.
Voilà, alors quand j'ai vu la Team Bâtard, je me suis dit, il y a un potentiel. Il y a un combat, il y a un discours, il y a une colère, donc j'ai parlé trottinette, mais pas que.
Bah, je pense que c'est notre avenir. Quand on voit les limitations de vitesse et tout ça, je pense que les trottinettes, oui, c'est notre avenir, ouais. Ça continue comme ça. Mais oui, on va pas se laisser faire.
C'est vrai?
Ouais, je pense.
Vous allez mener une fronde contre la trottinette?
Plus qu'une fronde, parce que ça commence sérieusement à nous saouler. Hein, les gars?
Oh, les gars, ils ont pas l'air super motivés.
Moi, je me réveille, moi.
Oui, alors, ouais. La révolution de la trottinette, c'est pas pour tout de suite, parce que la Team Bâtard, elle est pas du matin. Ah, voilà. C'est vrai que la révolution, ça se fait pas le matin. On dit le grand soir, on dit pas le petit matin. Bon, en tout cas, la Team Bâtard est fâchée contre les atteintes à la liberté des motards et craint que tout le monde doive bientôt rouler en trottinette. Donc, tirons-en peut-être des conclusions sur l'état de la France.
Ce qui se passe en France en ce moment, c'est qu'on nous prive beaucoup de liberté. Alors qu'on est soi-disant, on dit toujours qu'on est un pays libre. Bah, j'ai été en Belgique il y a pas longtemps à la Chimée et je m'aperçois que c'est certainement un pays plus libre que nous, quoi.
D'accord, la Belgique, commence à nous courir sur la trottinette, là. Bon, je vous laisse évidemment vous faire une opinion par vous-même. Est-ce que vous êtes team bâtard ou team trottinette? Si l'Aquarius eût été une trottinette, eût-il été mieux accueilli? Moi, je ne prends pas position là-dessus. Je sais, c'est de la lâcheté, mais c'est une tradition française également.
Le soir, déplie ses voiles sombres. Enveloppe l'étoile. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perles silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux, cette quand je serai morfonde. Nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre, griffes sur le pavé, les cœurs givrés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux des perles silencieux.
C'était l'étincelle d'Étienne Dao, qui annonce la deuxième partie de cette émission que nous allons passer en compagnie du fameux imitateur des Guignols, Yves Lecoq.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous, par Jupiter ?
Bienvenue dans Par Jupiter, Yves Lecoq.
Merci.
On est ravis de passer cette heure avec vous.
Vous dites ça maintenant.
Oui, on verra après, bien sûr, on fera le bilan. Mais le 29 août 88, vous auriez fêté vos 30 ans de Guignol, c'est exact ?
Oui, et on ne va pas fêter la fin.
Ouais.
Un peu de budget.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes gaufré à 3 mètres du buffet, quoi. Voilà. C'est-à-dire avant les 30 ans. Première rentrée sans les Guignols, pour vous, ça doit être assez spécial. Comment est-ce que vous abordez l'après ? Est-ce que pour vous, la vie va commencer ?
Comment est-ce que vous bolorez l'après ?
Alors, la vie va commencer, c'est Johnny. Mais puisque Johnny n'est plus là, il y a son sosie qui est là, heureusement, donc on pourrait en parler. Mais bon, comment la vie va recommencer ? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment arrêté non plus, mais c'est un peu plus de liberté, donc ça va être plus de spectacles, je pense, pour moi, parce que j'ai pas envie de me remettre encore un fil à la patte pour 30 ans. Hein, 30 ans, c'est pas mal déjà.
Mais c'est-à-dire qu'on pourra éventuellement vous voir en spectacle, vous préparer la Reconquista ?
Oui, j'essaye de reprendre ma place.
Très bien. Alors, il y a 3 ans, donc Bolloré annonçait l'arrêt des Guignols, qui finalement ont été prolongés un peu sous dialyse, avec des nouveaux auteurs, une nouvelle direction artistique. Est-ce que pendant ces 3 années, vous vous sentiez un peu moins libre ?
Écoutez, je me suis toujours senti très libre avec mon ami Bolloré, puisqu'il a fait tout ce qu'il avait voulu, et librement. Mais il n'a pas supprimé des Guignols, puisqu'il a fait revenir le Minicom. Hein.
C'est vrai.
Ça, c'est vrai que c'est un peu pour me faire plaisir, pour que je n'ai pas l'air beaucoup trop petit, c'est tout. Mais à part ça, les Guignols, vous savez, ça a eu son temps. Voilà. Ouais. Et moi aussi.
Vous pensez qu'il fallait réinventer le concept ?
Non, le réinventer, non, mais justement, il aurait voulu, c'est ce qu'il nous a fait savoir au début quand il est arrivé, le réinventer, mais façon La Fontaine, les fables de La Fontaine, vous voyez, des choses comme ça un peu basique.
Ça s'appelle Bébé Tchou.
Oui, un petit peu, voilà. Donc, c'était pas ce qui correspondait à ce que les gens attendaient, puisque j'attendais vraiment beaucoup de nouveautés, justement, à travers les infos des Guignols, beaucoup d'informations un peu cruelles que certains médias ne donnaient pas.
Alors là, on entend bien que répondre par le truchement de l'imitation permet de répondre avec un certain degré de lecture.
Un détachement.
Ça vous a pas échappé, dites donc.
Non, mais alors je peux vous répondre réellement. Non, mais les Guignols, c'est vrai que on a quand même passé à une autre vitesse quand on est un peu plus lente, hein, quand même. Et puis surtout, on savait plus où ils étaient, on savait pas quelle heure ils passaient. Enfin, on les a mis quand même un peu de côté, alors même si j'avais pas le droit de dire ça, mais bon, c'est quand même la vérité, tout le monde pouvait l'affirmer. Donc à partir de là,
On témoignera en votre faveur, vous inquiétez pas.
Je me suis dit, on ne va pas aller bien loin comme ça, c'est tout. Donc 3 ans de plus.
Alors, est-ce que ça manque dans le paysage de la caricature en général française ? Parce que nous, en tant que Belges, c'est vrai que la France est un pays historiquement de la caricature. Oui, on est partout.
Vous avez bien
entendu. Et il est vrai que lorsqu'il y avait des moments d'actualité qui étaient très, 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 très douloureux, qui étaient parfois très trash, seuls les Guignols pouvaient s'en emparer dès le soir même,
quelque chose.
Parce qu'il y avait le truchement, comme dirait Jupiter, de la marionnette. Oui. Et donc, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de marionnette, bien sûr, il y a toujours des imitateurs, vous êtes toujours là ainsi que d'autres, et c'est déjà prendre un pas de côté, mais est-ce que le truchement de la marionnette ne permettait pas d'aller plus loin que les autres ? Est-ce que
ça manque ? Là, quand il y avait des catastrophes très graves, c'était quand même une épreuve pour les auteurs de trouver comment être, entre guillemets, drôle ou d'être simplement présent à travers une actualité terrible. Donc ça, on peut s'en passer. Mais sinon, c'est plus pour dire les vraies choses après des vrais événements qui va peut-être manquer un moyen d'expression comique, parce que le comique faisait passer tout et excusait tout aussi, je trouve. Mmh. Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la suite. Je ne te cache pas qu'il y a toujours des projets de reprendre une formule. Hein. Mais pour l'instant, c'est que des vagues idées.
Alors l'occasion de saluer toute l'équipe technique des Guignols, qui fait l'objet, j'imagine, d'un licenciement.
Oui, comme voilà, moi, j'étais mis à la retraite.
Comme vous, voilà. Et donc on a bien sûr une pensée pour eux, parce qu'il y a des décorateurs, des marionnettistes, les auteurs. Et puis notre parrain, Bruno Gassiot, qui est le parrain de cette émission depuis la première année, il y a 4 ans. Et donc,
papas.
On n'a toujours pas... Yves Lecoq avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Nous entrons dans l'an 2 du Nouveau Monde. L'affaire Benalla a démontré que ce Nouveau Monde avait encore besoin de l'ancien, surtout quand il s'agit de gérer un scandale. Et d'ailleurs, la commission d'enquête a fait du Sénat le lieu le plus branché de l'été. Le Sénat, the place to be. Les vieux briscards ont toujours 2-3 bons conseils à prodiguer au nouveau, ne l'oubliez pas.
J'en ai vu d'autres, hein. Mary et sa cassette, là. J'ai dit abracadabrantesque et 2 jours après, plus rien. Pareil pour mes billets d'avion en liquide. J'ai dit pssst et fini. Et Sirvin, il voulait faire sauter la République 200 fois. Ça a fait blop son histoire. Alors Schiller, ça fera chebam et c'est tout. Chebam. Eh oui, pour moi, les affaires, ça fait pssst, blop, chebam, whiz. Quoi? Viens, un petit Schiller dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des pssst.
On l'aime toujours autant.
Affirmatif.
Yves Lecoq. Et Chirac, il a enterré sa marionnette. On aurait cru que ce serait le contraire. Peut-être que la marionnette devrait un jour enterrer Chirac. Et c'est le contraire qui se passe.
J'attends ça avec impatience. La mise en bière, vous savez, sponsorisée par Corona.
J'imagine, avec Jean-Louis Debray à vos côtés. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'affaire Benalla avec plus ou moins d'assiduité et vu comme ça ce théâtre entre le Nouveau Monde, l'Ancien, le Sénat prendre un rôle important
Le député était bien... Il y a pas mal de gens qui sont sur la touche, dans les starting blocks. Que, par exemple, Jean-Pierre Raffarin, depuis la Chine, est prêt à revenir même toutes les semaines.
Un ticket avec Alain Juppé pour les Européennes. Oui, donc l'ancien monde n'est pas tout à fait fini. Ils se rebellent.
Je pense qu'ils en auront besoin, quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais.
Mais vous, quand vous avez vu arriver, parce que c'était il y a un an et demi, toutes ces nouvelles têtes et disparaître presque en même temps tous ces personnages que vous maîtrisiez.
Dans un genre,
Est-ce que vous vous êtes dit bon
le châssis est toujours là.
est-ce que je m'y colle, qui je choisis, comment je recrée des gimmicks?
Il fallait laisser quand même les choses évoluer pour que les gens existent, c'est-à-dire qu'ils aient éventuellement une voix qu'on remarque et pour pouvoir en faire après ça une imitation rigolote.
Est-ce que c'est encore une époque qui vous inspire un peu pour l'imitation, pour l'envie de caricaturer?
Là, il faut s'y remettre parce que c'est vrai que on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et quand on nous dit que certains vont venir, bon, c'est du pain béni, parce qu'il y avait quand même des belles vedettes là dans le tas. Mais après ça, des nouveaux, c'est aussi bien d'en trouver. Donc là, il faut un peu plus de temps, il faut qu'ils s'installent. Et ils ont plutôt l'air d'être sur des sièges éjectables que de s'installer. Quoi.
Oh. Yves Lecoq avec nous. Et place donc aujourd'hui à un chroniqueur sain d'esprit, heureusement. Oui, c'est vous, c'est Thomas Bideguin.
Vous n'êtes pas reconnu au lancement.
Voilà. Oula, donc c'est à moi. Et cette saison, moi encore, je viens vous parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je viens éclairer vos vessies sur le monde tel qu'on nous le raconte. Justement, le sujet du jour dans le monde du storytelling, c'est la deuxième chance. C'est une figure narrative très utilisée dans le cinéma américain où les Rocky, les Rambo ou la plupart des films de Clint Eastwood sont construits autour du principe de deuxième chance. Et c'est très populaire parce que tout le monde a le sentiment de la mériter, cette deuxième chance. Oui, tout le monde. Prenez un Alexandre Benalla, on n'y échappe pas, puisqu'il se faisait passer pour un policier alors qu'il n'avait pas fait les études pour... Oui, c'est complètement incroyable. Il faut faire des études pour devenir policier. Oui, apparemment, il y aurait un concours avec une épreuve d'orthographe. Oh, les acrobates, virgule. Ils ont les papiers de la mobilette, point d'interrogation. Et c'est la rentrée pour moi aussi. Enfin, voilà. Donc même Benalla voudrait mériter une deuxième chance. Et pourquoi pas? Mais bon, pas dans la police, dans un autre secteur. Il pourrait s'occuper du trou de la sécu, je sais pas. Bah oui, parce que nous, à Cochin, quand on a su qu'il venait de l'Élysée, on lui a donné une blouse et un scalpel, comme on fait d'habitude. Oula, c'est quoi ça? C'est le pancréas? Oui, enfin, je sais pas, on est pas sûr. Enfin, au revoir, madame. Et oui, parce que c'est comme ça, la deuxième chance des uns fait souvent le premier malheur des autres. Même si, voilà, ça égarait quand même un peu les 1er mai de notre pauvre médecine pavillonnaire. Mais, alors, que faut-il faire pour mériter une deuxième chance? Bon, déjà, évidemment, faut en avoir eu une première. Et puis, faut l'avoir gâchée. C'est comme ça, sans échec, pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance, par exemple, pour l'équipe de France de football. Alors que, par exemple, pour la Belgique... Bon, vous voyez que tout le monde aimerait que son histoire soit un récit de la deuxième chance. Même Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré devant ses militants qu'il voulait transformer les élections européennes en un référendum anti-Macron. Puis ensuite, ils sont tous allés à la cantine, où Jean-Luc a également décidé de transformer le choix des entrées en un référendum anti-Macron. Puis, le choix du dessert. Parce qu'il est comme ça, Mélenchon, il lâche rien. Qui veut un financier? Non, pain perdu pour tout le monde. Eh oui, et François Hollande. Ben, est-ce qu'il rêve pas lui aussi d'une deuxième chance? En tout cas, c'est ce qu'on se dit à la vue des visuels faussement fuités au cœur de l'été, où l'on le découvre posant pour une éventuelle campagne Hollande 2022. Et là, c'est la finance qui tremble. Et oui, parce qu'on peut quand même pas imaginer qu'il la rate une deuxième fois. Et Donald Trump. Voilà quelqu'un qui aurait bien besoin d'une deuxième chance. Son ancien avocat aurait des enregistrements de lui en train de distribuer des pots de vin. Son ancienne secrétaire dit qu'elle a enregistré alors qu'il utilisait le mot « nigger ». Les Russes auraient des enregistrements de lui en train de faire des trucs bizarres avec des prostituées. Allez-y, fermez les yeux, pensez à un truc. Mm-hmm. Eh bien, il est probable que quelqu'un possède un enregistrement de train en train de le faire. Mais bon, la deuxième chance est un principe de récit très américain. C'est la différence qu'il y a entre Rocky II et Neuilly, sa mère, le film avec Charline Van Hoenecker, Necker. Oui, en France, on préférera les personnages qui s'obstinent à ceux qui rebondissent. Pas de deuxième chance dans le cinéma français où on aime les destins tragiques. C'est une question de principe, c'est presque une question d'honneur. Et on se souvient de Rému qui disait à Pierre Fresnay dans Marius, il lui disait « L'honneur, c'est comme les allumettes, ça sert qu'une seule fois. »
Thomas Bideguin. Une prestigieuse marque de cosmétiques française propose du maquillage pour hommes. Et oui, c'est un sujet qui a alimenté les pages économie de nos journaux. Aujourd'hui, l'homme est une femme Barbara Gould, si vous voulez. Hier, c'était moins évident, rappelez-vous.
C'est mon voisin de palier. Il est venu me rapporter deux ou trois petites choses qu'il m'avait empruntées ce matin.
Ah, il vous a rendu votre brosse à dents.
Il vous a rendu aussi votre mascara.
Oui, et mon fond de teint de chez Guerlain aussi. C'est le charme de ces petits immeubles bohèmes. Quand on a besoin de quelque chose, on va frapper chez le voisin.
Pierre Richard dans À gauche en sortant de l'ascenseur, film d'Edouard Molinaro en 88. L'homme de télé que vous êtes, Yves Lecoq, car vous continuez à proposer des émissions sur France 3
François,
notamment.
Oui,
les Grands du Rire, généralement le samedi, si je ne m'abuse. Homme de télé, vous faites maquiller maintes fois. Est-ce qu'on y prend goût, Yves?
Ah non, pas au maquillage. Même crème solaire, j'oublie d'en mettre. Mais c'est vrai que chez maintenant, vous parlez de Lagerfeld quand même, de Chanel. Qui a
vrai, c'est Chanel.
C'est pas le premier, mais en même temps, c'est bien quand même d'arrêter l'hypocrisie, parce que c'est pas la première fois que les hommes piquent, Fillon a piqué le crayon à sourcils à sa femme. Donc, pourquoi pas le faire officiellement? Et il faudrait peut-être aussi que ça aille chez les footballeurs, puisqu'ils ont beaucoup de soins sur les cheveux, mais pas tellement sur les dents. Donc, je ne cite personne, bien sûr.
C'est vrai que ça pourrait séduire les footballeurs, en effet. Les rockers qui incarnent une certaine virilité, ils se maquillent aussi. Johnny était maquillé, d'ailleurs, non? Mais du col.
On a le droit d'être beau gosse. Il veut coq. Il était très beau gosse quand il était jeune.
Il est toujours maquillé,
mais sympa.
Vous n'avez jamais été tenté?
Le maquillage au quotidien.
Non, mais vous n'avez jamais essayé les yeux, par exemple, de vous maquiller. Vous êtes jamais mis du mascara,
quand je me
déguisais du crayon
en
à l'intérieur.
Nana, évidemment, si je faisais Nana Mouskouri, je me maquillais en Nana Mouskouri. Hein. Il n'y avait pas que les lunettes.
Ça améliore le regard.
C'est plus joli. Les lunettes, oui.
Oui.
Non, mais non, pour les yeux, on le fait parce qu'il paraît que c'est comme ça pour la télé, hein, parce que le regard.
Ah, pour les hommes, on maquille les yeux aussi?
Oui.
Oui. Mais non.
Mais si, enfin, oh, maquillé.
On vous fait du mascara.
Un petit trait, là, sous
si, Sarkozy faisait beaucoup ça en télé. Il demandait à ce qu'on lui mette un trait de blanc. Ça se voyait d'ailleurs beaucoup trop à l'intérieur de l'œil parce que ça agrandit le regard.
Ah bon?
Comment vous savez ça, vous?
Non, c'est le marketing qui répond justement à ce que dit Mélanie. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a un marché potentiel, ils y vont.
On sent l'économiste en vous qui parle. Hein. Thomas Bidguin, vous vous maquillez, ça vous...
Bah, après une liposuction, moi j'ai toujours tendance à... Alors, la peau qui gonfle un peu. Alors, moi, bon, un petit trait de mascara.
Et vous, Alex, vous êtes tenté?
Pour la télévision, si vous me le demandez.
Hein non, mais au quotidien, je veux dire.
Il est beau, Alex, quand il est maquillé.
Vous mettez un peu de crème de jour, parfois je vous vois au bureau.
Je crois que ça intéresse beaucoup les gens. De temps en temps, entre le mois de novembre et le mois de février, parce que là, il fait un peu frais.
Ça m'arrive. Vous vous hydratez.
Je m'hydrate énormément.
Voilà, si on passe au sketch.
Yves Lecoq, c'est l'heure du sketch. En fin d'émission, on propose à l'invité un sketch qu'il découvre. Il arrive entre vos mains. Il y a un problème de retraite, évidemment, en France, en ce moment. C'est à jouer. C'est à jouer avec des voix
comme
à mon avis.
J'arrive à la dernière minute.
Voilà, exactement.
Je saute de la moto et je dois faire le JT.
Les retraités sont angoissés et donc un téléphone sonne spécial, Charline et Fabienne Sintès.
Ouais, j'adore. Bonjour, bienvenue dans le téléphone sonne. Aujourd'hui, les retraites. Et ça tombe bien, vu l'âge de nos auditeurs. Appelez-nous au 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne.
Et on prend tout de suite un premier auditeur qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors vous êtes un retraité en colère.
Non, je profite. Putain. Ah non, qui est président, il a foutu la zizanie partout. Et il s'est mis les petits vieux ados en plus. Hein, mon public. Un génie ce Jupiter.
Mais avec votre expérience, vous lui conseilleriez quoi, Emmanuel Macron?
Oh, une bonne corona avec une tête de veau, c'est un peu d'ail, c'est délicieux. Hein.
Nicolas, reviens!
Arrête, maman!
Nicolas, reviens!
Non, maman, arrête, je suis au téléphone avec le RTF. Hein.
Ah, qu'est-ce qu'elle veut?
Ah, rien, elle est tombée amoureuse du petit nerveux. J'aurais préféré qu'elle flash sur baladure. Hein.
Ah non, non, pas le goitre.
Oui, alors on va tout de suite prendre un deuxième auditeur, Patrick. Allô, Patrick?
Madame, monsieur, bonsoir.
Alors, bonsoir! Alors Patrick, vous aussi, vous êtes un...
Dit, spécial, mais enfin bon.
Vous êtes un retraité en colère également.
Oui, enfin on m'a mis à la retraite, je n'y ai pas acquis, alors je pouvais encore travailler.
Mais il faut laisser la place aux jeunes.
Oui, mais en ont, et je n'en ai pas mon charisme, mon charme, mon évidence.
Oui, c'est vrai que vous êtes un grand séducteur. Hein, vous êtes.
Charm Stone, Béatrice Dalle, Angela Merkel, bon, c'est pas de la housse qu'aura mon tableau de chasse.
Hein. Oui, mais c'est pas pour ça que vous faisiez ce métier quand même.
Ciao, bonsoir.
Bon, alors, c'est vrai, alors on a perdu un dernier retraité au téléphone.
C'est le sosie de Jolie.
Ah. Oui, alors vous êtes en colère aussi contre la baisse du pouvoir d'achat, alors.
Du pouvoir d'achat à qui?
La baisse du pouvoir d'achat, la politique de Macron.
Ah, je connais bien la ville de Macron, mais je ne suis pas intéressé à la politique.
Non, Emmanuel Macron, le président de la République.
Ah, que le président, que je le connais bien, oui, il a très bien parlé à mon enterrement.
Oui, eh ben, il diminue les retraites, là.
C'est triste, hein, pour David et Laura.
Oui, pour Laetitia aussi, non?
Ah, que non. Laetitia, ça va aller. Elle sait très bien gérer les retraités.
Et cette semaine encore, Alex, notre fameux slogan « Jamais sans mon fromet ».
Jamais sans mon fromet, et fromet, en général, c'est rarement sans son Macron, Magic Jupiter.
Feel the magic Jupiter, allez, 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 les Gaulois réfractaires. Allez, 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 feel the goodies in the air. Allez, 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 levez les mugs en l'air. Allez, allez, allez. Je traverse la rue, je vous trouve du travail. Le breton, c'est la mafia française. Une gare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes qui foutent le bordel. Bien souvent, la vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié. Il faut pas l'oublier. Feel the magic Jupiter. Allez, 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 les Gaulois réfractaires. Allez, 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 feel the goodies in the air. Allez, 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 la porcelaine en l'air de Limoges, de Toulouse. On met un pognon de dingue, oui, 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 dans les minima sociaux. Il faut dans ce pays des jeunes qui ont envie de devenir milliardaires. Non, vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. Tu m'appelles monsieur. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler, de se nourrir soi-même. Feel the magic Jupiter. Allez, 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 les Gaulois réfractaires. Allez, 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 feel the goodies in the air. Allez, 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 les bracelets en l'air de 150 euros. Le quoi, ça pêche peu, il amène du comorien, poudre de perles, un pimpin. Dans la société, gade, il y a une majorité de femmes illettrées. Ohé, 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 feel the magic Jupiter. Allez, 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 les Gaulois réfractaires. Allez, 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 feel the goodies in the air. Allez, 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 tout le monde comme Castaner. Allez, allez, allez.
Et voilà, Alex, l'heure a trépassé, déjà. Oh. On va se retrouver, bien sûr, demain avec deux nouveaux invités.
Le très dernier très florilège.
Ouais, avec Jean-Paul Gaultier et avec Nina Bouraoui.
Super, à demain.